Azione!
J'aurais un petit mot à dire sur ce film, mais pas maintenant.
Il n'y a vraiment pas de quoi rire. Hein. C'est vraiment un AV, ce film.
Vous voyez, je dois rien bouleverser.
Vous ne trouvez pas ce film formidable? Moi, si. J'ai eu tellement pitié du malheureux monde.
Madame, je n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde.
C'est un très beau film, j'en ai rien à foutre, mais c'est un très beau film.
On vit une époque formidable, Michel. Absolument. Tous les jours, on en a plein les yeux. Get out.
Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Vous écoutez Le Comptoir du Cinéma, votre émission d'actualité cinématographique uniquement sur Transistor. Et ce soir, ici au studio de Transistor, on est avec Laura, Nathan et Claire. Bonsoir à tous les trois. J'espère que ça va pour ce nouvel épisode où nous allons parler cinéma européen avec deux films très différents. La salle des profs d'Asler Zimmer, du réalisateur allemand Ilker Kastatak, et de Il reste encore demain, C'è ancora domani, de Paola Cortellesi, qui sera notre débat. Mais je commence d'abord par garder le micro pour vous parler de cette salle des profs. Ouais, donc je vous en parlais la semaine dernière en fin d'émission, avec déjà la volonté d'en faire une possible chronique dans l'émission du jour, ce que j'avais préparé cette semaine pour vous la lire aujourd'hui. La salle des profs, donc, est un film que j'avais, je l'avoue, repéré du coin de l'œil à l'occasion d'un post Insta sponsorisé ou d'une affiche en ville, mais sans avoir été non plus immédiatement tenté. Il avait pour lui d'être un film allemand, mais contre lui d'être un film sur les profs, et c'est toujours très dur pour le cinéma d'être juste à ce sujet, je trouve en tout cas, peut-être parce que c'est une situation qui est trop peu naturelle pour supporter le passage à l'écran, peut-être parce qu'elle ne sert parfois que de prétexte à une intrigue écrite par des gens qui ne connaissent pas le milieu. Peut-être aussi parce que, en tant qu'enfant de prof, ainsi que le remarquait une amie à moi qui est aussi dans cette situation, c'est plus difficile d'adhérer au récit qui nous est proposé. Mais voilà, mes parents, puisqu'il faut en parler, m'avaient envoyé ces messages dans la semaine qui précédait. Excellent film, vous ne pouvez pas passer à côté au comptoir. Ou encore, le film à voir ce mois, c'est L'Erreur de Zimmer, forme et fond au rendez-vous. J'imagine qu'il est sur vos tablettes, forcément. Rien à voir avec ce que vous aurez pu voir dernièrement. Il parlait de l'Empire. Il le fallait donc, je suis allé voir Das Leere Zimmer, un film d'Ilker Kastatak. J'espère que je ne prononce pas mal son nom. Et en effet, quelle claque. Le film commence par un interrogatoire. On ne comprend pas immédiatement quels sont les enjeux, qui sont les personnages autour de la table, ni qui les interroge. Une femme, Madame Novak, arrive un peu en retard. La caméra tourne alors autour de la table et ce mouvement plus large nous révèle que ce sont les délégués de la classe dont elle est la professeure principale qui sont convoqués. Mais le motif reste obscur. Les adultes veulent un nom que les enfants refusent de donner parce qu'ils ne le connaissent pas. L'un des deux, néanmoins, plus ou moins sous la pression du CPE, va indiquer un de ses camarades sur la liste. Les faits s'éclaircissent après. Des vols se succèdent en salle des profs et une enquête interne à l'établissement, qui se félicite d'une politique de tolérance zéro, est menée. Madame Novak, prof de maths et de sport arrivée récemment dans l'établissement, rejette fermement toute forme de coercition à l'égard de ses élèves, avec lesquels elle désire établir un rapport plus horizontal que vertical et tend un piège aux voleurs. Dans la salle des profs, d'où le titre, elle laisse sa veste sur sa chaise et son porte-monnaie à l'intérieur. Face à cette chaise, elle laisse aussi son ordinateur en veille, mais avec l'écran ouvert, et laisse la webcam prendre le voleur sur le fait. Et après, la situation lui échappe complètement. À partir de cette vidéo, de ce qu'on y voit et plus encore de ce qu'on n'y voit pas, les relations entre enseignants, entre élèves et entre élèves et enseignants vont toutes irrémédiablement se dégrader. J'ai essayé de ne pas trop en dire pour éviter de divulgâcher ce film qui repose sur une tension continue et vraiment éprouvante, portée d'abord par cette actrice exceptionnelle, Léonie Benesch, qui a remporté le Deutscher Filmpreis de la meilleure actrice, et non à la Berlinale comme je l'avais dit la semaine dernière, Berlinale où il s'est néanmoins fait remarquer le film, en plus que d'avoir représenté l'Allemagne aux Oscars. Voilà pour la parenthèse récompense qui n'a guère d'intérêt, mais au moins nos auditoristes qui y sont sensibles ne seront pas déçus. Léonie Benesch, donc, incarne Clara Novak avec un panel d'émotions absolument immense qui rend non seulement crédible, mais encore plus bouleversante sa lente dégradation mentale. Le premier cours que nous la voyons donner est alors à son image solaire. Une immense clarté baigne la salle de classe, qui nous apparaît alors un peu comme elle doit l'imaginer elle, un safe space pour elle, pour ses élèves, qu'elle ne force à rien, en tout du moins qu'elle ne contraint jamais, et une méthode qui semble d'ailleurs marcher, hein, ils font quand même leur travail. Il y a ce petit rituel pour dire guten tag au début du cours en tapant dans les mains, lever les cahiers, etc. Elle est souriante, elle est motivée par un vrai désir de réussir, de faire ses preuves, d'être appréciée aussi. Et c'est sans doute cela qui l'anime lorsqu'elle tend ce piège dans la salle des profs. Ce désir d'être appréciée, on la sent en fait, avant même que le drame ne commence, comme en décalage avec ses collègues, qu'elle vous voit toujours, voire qu'elle appelle madame plus nom de famille ou monsieur plus nom de famille. Mais son intégration est toujours un échec. Elle est sans cesse ramenée à sa condition singulière, mais sa quête de vérité, d'honnêteté plutôt, car il n'y a pas chez elle de fanatisme philosophique de la vérité, sa quête d'honnêteté donc la sort de l'espace social. Cette exclusion se fait sur fond d'un déchirement identitaire. Quoique née dans le Schleswig-Holstein, ses origines polonaises sont régulièrement, mais discrètement, rappelées par certains personnages. L'un de ses collègues qui essaie de discuter avec elle en polonais, mais qu'elle rabroue sèchement en allemand, ou bien par les élèves qui l'interviewent pour le journal du collège et lui posent cette question de son nom de famille comme par pur soupçon. Mais ce n'est pas le film qui le dit, hein, c'est ce qu'on peut en inférer. La force du personnage de Madame Novak, de Clara, est précisément qu'elle n'a pas de force. Sans misérabilisme ni complaisance, le film montre juste que le système l'alien et la brise et la ramène à sa faiblesse. Tout rate. Elle ne s'intègre vraiment pas parmi ses collègues et l'une des choses qui semble lui faire le plus de mal est lorsque l'un de ses élèves lui dit plus tard que ce Guten Tag matinal est juste gênant et que c'est bien pour elle qu'ils le font. On pourrait craindre qu'une telle caractérisation fasse du personnage un être complètement privé d'émotions. Et c'est sans doute ainsi que la voit la plupart de ses collègues avec lesquels elle tient, je l'ai dit, à n'entretenir que des rapports strictement professionnels. Mais une telle conception se heurte d'abord dans la diégèse à l'amitié que lui porte son collègue polonais et à l'amitié que lui porte une autre professeure, et par la puissance du film lui-même qui nous fait comprendre, par un moment unique mais particulièrement beau et émouvant, que si, elle a une vie en dehors du collège, quoique nous n'en sortions nous-mêmes jamais. Et je reviens sur ce fait dans un instant. Madame Novak n'est pas une mère courage. Lorsqu'elle choisit de prendre sur elle tel ou tel fait, c'est aussi sa responsabilité. Et dans ces moments, le film ne l'héroïse pas. Le spectateur est même parfois en décalage avec elle. Son choix de protéger un élève contre la direction, contre ses collègues, l'a fait finalement aller contre cette honnêteté et ce refus du mensonge. Mais s'il y a incohérence, il ne faut pas les considérer comme des défauts d'écriture. Ce sont aussi les failles humaines de ce personnage que l'on a parfois du mal à soutenir dans son jusqu'au boutisme, disons-le. Mais ce sont ces failles aussi qui donnent lieu à des scènes exceptionnelles d'intensité et où l'on est intégralement mobilisé, requis, en fait aliéné même par le film, parce que la salle des profs offre peut-être par exemple la première crise d'angoisse réaliste que j'ai vue au cinéma, ce qui est un flex particulier, mais un flex quand même, et bouscule vraiment notre expérience de spectateur. Et c'est parce que ce personnage nous est montré tout du long du film comme le tenant d'une troisième voie, d'un juste milieu, que lorsqu'elle propose à sa classe de hurler pour défouler toute la rage, toute la haine, tout le refoulé accumulé ces dernières semaines, on est pris de court et on veut juste hurler avec elle. Autour de Léonie Bénèche, les élèves jouent aussi extrêmement bien. On les croirait vraiment sortis d'un collège et aucun ne joue faux. Ils savent chacun adhérer à leur rôle, qu'ils soient en décrochage, harcelés, arrogants ou sincèrement curieux et désireux d'apprendre. Et quoi que je fasse une liste comme ça, le film n'a rien d'un catalogue de types qui fait que les films sur le collège sont généralement si mal faits. Pas plus, d'ailleurs, qu'il ne fait le catalogue des types de collègues. Les rôles, et même n'y a-t-il pas à proprement parler de rôles, tournent, circulent, comme dans la vraie vie en fait. Et c'est bête de le dire, mais il n'y a dans l'ensemble ni méchants ni gentils, par peut-être quelques-uns dont je reparlerai. Dans la galaxie des membres de cet établissement, tous ont leurs raisons. Et toutes les raisons sont compréhensibles. Le film est vraiment réaliste parce que, même s'il suit et s'attache au point de vue de Madame Novak, il laisse des possibilités polyphoniques d'expression aux autres personnages. Parce que, précisément, la salle des profs ne s'appelle pas la nouvelle enseignante, ou la débutante. Et ouais, c'est d'abord un espace, cette salle des profs, qui s'étend peu à peu à tout le collège et qui est le lieu d'un film d'enquête, d'un film en huis clos oppressant où l'établissement confine ses personnages, une ambiance paranoïaque renforcée par la structure labyrinthique de l'établissement, qui rappelle parfois le panoptique et qui induit, évidemment, la question de la surveillance. Puisqu'en définitive, c'est bien de cela qu'il s'agit. Mais avant de prononcer le nom du monsieur chauve dont vous devinez peut-être la silhouette en train de se profiler dans ces mots, vous savez ce monsieur qui est présent au moins une fois dans chacun de vos cours, revenons sur la question de l'enquête, puisqu'après tout c'est bien là l'enjeu dramatique. Si c'est bien par l'enquête que le film commence, et par elle que tout arrive, eh bien l'enquête à proprement parler disparaît en fait assez vite. Ce qui est de façon extrêmement intéressante au cœur du film, c'est finalement l'absence d'enquête. Je m'explique. À partir du moment où Clara obtient sa preuve, les éléments de langage de la direction vont être de dire que rien n'est établi pour l'instant et qu'il faut laisser l'enquête avoir lieu, la police faire son travail. Mais le faut-il vraiment ? Parce que tout le monde est convaincu de la culpabilité de celle qu'a filmé la webcam de Madame Novak, puisque, et c'est là que le film est puissant, c'est finalement la valeur de témoignage irréfutable de l'image qui est en jeu ici. L'image, qui doit théoriquement confondre la coupable lors du visionnage, se voit opposer un déni énergique et véhément. Le spectateur est finalement mis face à un choix. Doit-il faire appel à son intelligence rationnelle ? À son intelligence émotionnelle ? En fait, comme dans Blow Up d'Antonioni, la preuve obtenue finit par être tellement regardée, ici discutée, qu'elle finit par disparaître. On ne la verra plus de tout le film, au point qu'on doutera de ce que l'on a pourtant clairement vu, jusqu'à la destruction effective de la vidéo. Et puis dans le film lui-même, cette non-enquête où l'éthique importe moins que la démonstration, et je fais des guillemets avec mes doigts, de ce que l'on estime déjà savoir, eh bien, on le voit aussi avec le passage des « journalistes » du journal du collège. Sans doute les pires personnages du film, à mon sens, c'est les méchants pour moi. Ils perdent un but d'eux-mêmes avec le sentiment qu'ils font quelque chose d'important quand ils veulent juste être au centre de l'attention de leurs camarades et surtout utilisent des mots et des concepts qu'ils ne maîtrisent pas et qui deviennent juste absurdes. Ils déforment complètement les propos de Madame Novak pour leur faire dire exactement ce qu'ils attendent. Ainsi, la dichotomie preuve-affirmation présentée en maths au début du film est exactement celle qui va le travailler à la fois à l'intérieur du récit et dans sa construction. Dassler et Zimmer refuse donc les codes du thriller classique. Plutôt que d'arriver à une résolution claire et nette à partir d'une situation embrumée et confuse, on fait le chemin inverse. On croyait savoir, et puis finalement toute la tension se décale vers la prise de conscience de ce que rien n'est sûr. Car c'est un film où l'on a les fesses qui font bravo, où l'on est constamment sur nos gardes, où l'on est stressé. La dame à côté de moi tressautait et n'hésitait pas à pousser de petits « ou à dire « oh là là » de temps en temps. Rien de dérangeant non plus, madame, si vous nous écoutez, j'ai pas passé un mauvais moment à cause de vous. En resserrant de plus en plus le cadre sur le visage de Carla dont les traits se durcissent, dans des tons pastels et froids, et sur une musique d'angoisse pure, assez minimaliste, où une séquence de cordes pincées se trouve comme parasitée par divers petits motifs qui brouillent le thème, comme l'intrigue est elle-même brouillée, tous ces éléments à la fois, donc, nous font passer peu à peu dans une forme de folie, jusqu'à une séquence hallucinée, hallucinante, hallucinatoire, vers le milieu du film. À ce titre, la salle des profs doit beaucoup à son montage, au cordeau exceptionnel, et d'ailleurs lui aussi récompensé du Deutscher Filmpreis du meilleur montage. Mais le refus du thriller classique, il est aussi dans ce qu'il n'y a pas de méchant, finalement, dans la salle des profs. S'il faut vraiment réussir le méchant pour réussir le film, bah, qui est à blâmer ici ? Personne. Sans du tout être un film à thèse, la caméra filme très bien les mécanismes sociaux à l'œuvre dans ce collège, posant un regard neutre sur une classe telle qu'elle est aujourd'hui dans sa diversité. Et c'est, en ce sens, un des meilleurs regards sur la société contemporaine, et pas du tout que allemande comme j'ai pu le lire ou l'entendre, un des meilleurs regards sur la société contemporaine que j'ai vu récemment au cinéma. Il montre que le vivre ensemble apparaît, enfin théorisé comme... comme but, est finalement impossible. Et si ce peut être pour des raisons religieuses ou culturelles, vécues peut-être aussi par le réalisateur lui-même du fait de ses origines turques, bien dans le film, ce n'est pas ça qui pousse les enfants les uns contre les autres. Que Ali ou Hatice soient musulmans ne compte finalement bien moins que les antagonismes de classe sociale qui vont avoir raison de l'unité de la classe scolaire. Car celle qu'on accuse des vols est la mère d'un des élèves de la classe et dont on devine la situation socio-économique plus ou moins précaire. Et les enfants vont le lui rappeler avec la violence dont des collégiens sont capables. C'est donc bien la structure qui fait son travail. Mais est-elle seule responsable de l'immense violence qui pointe dans le film ? Une lecture foucauldienne, et oui, c'était lui le chauve dont je parlais tantôt, soulignerait, comme d'ailleurs Madame Novak le fait, l'héritage fascisant de ce dispositif scolaire. Et le film se verrait alors comme une sorte de prolongement de l'avertissement aux lycéens et écoliers de Raoul Van Eghem qui écrit, je le cite, que la configuration du bâtiment scolaire lui-même, et c'est quelque chose qu'on voit dans le film à plusieurs reprises, dans le jeu entre des couloirs vitrés qui laissent supposément passer toute la lumière, ou des escaliers qui s'imbriquent et où l'on perd ses repères, la configuration du bâtiment, donc, obéit à la loi de l'angle droit et de la structure rectiligne. Ainsi, l'architecture s'emploie-t-elle à surveiller les écarts de conduite par la rectitude d'une austérité spartiate. Ou bien, écrit-il un peu plus haut dans ce même opuscule, c'est pourquoi la plupart des écoles sont des champs de bataille où le mépris, la haine et la violence dévastatrice dressent le constat de faillite d'un système éducatif qui contraint l'enseignant au despotisme et l'enseigné à la servilité. C'est une lecture possible et valable. Après tout, la perversité de ce système est assez soulignée quand le joyeux « Ich will ihre Bücher sehen » qui ouvre la classe devient un « Wir wollen ihre Portemonnaie sehen ». Donc « Je veux voir vos cahiers » devient « Nous voulons voir vos porte-monnaies ». Et navré pour mon accent. Tout à coup, la coercition surgit. La professeure elle-même est prise de court et est conduite de facto à un despotisme qu'elle ne cautionne pas, pas plus que l'accusation d'Ali qui ressort de ce moment. Mais le choix même de Clara de filmer à leur insu ses collègues, n'est-ce pas caractéristique d'une société de surveillance ? On doit évidemment avoir tout cela en tête dans le film. Mais peut-être que cette réponse par la structure, convaincante, n'est pas en absolue adhésion aux faits, à la réalité, et donc au film qui reflète la dite réalité pleinement. S'il y a violence dévastatrice, à quoi d'autre l'imputer ? Parce qu'en fait, la salle des profs ne renonce pas du tout, ni tout à fait, à l'idée d'énigme. Je ne dévoilerai évidemment pas le dernier plan, mais il est finalement un condensé du film. D'abord pour nous dire à quel point les enfants, parce que oui, on peut dire que ce sont des enfants, sont opaques, qu'on ne les comprend pas, et qu'il y a peu à peu un fossé qui se creuse. En cela, la salle des profs s'inscrit dans la tradition des récits allemands du genre les enfants de Tempelbach, jusqu'à la vague d'autonomisation des enfants en parallèle des adultes. Mais ici, elle est vraiment pour le pire, peut-être pire encore que dans la vague. Il ne s'agit même plus d'adhérer à un mouvement sous la pression du regard des autres, mais bien d'entrer dans l'ère de la post-vérité. Les refus des enfants sont motivés par leurs croyances effectives dans ce qu'ils ont choisi d'être vrai. Dans leur conviction d'être dans leur bon droit, et que tous les autres ont tort, de sans cesse remettre en question ce qui est pourtant au départ indiscutable. Le film n'est absolument pas optimiste. Le collège se fait reproduction de la société tout entière et annonciateur de la violence qui vient. La brève échappée hors des murs de l'établissement n'est pas du tout le lieu de la résolution du tension, c'est même là qu'elle éclate. sans être ni on vit vraiment dans une société et encore moins dans un discours CNewsesque, évidemment, Das Lehrer Zimmer semble juste nous dire qu'on est foutu. L'idéologie scolaire, qu'elle soit celle de la tolérance zéro de la direction ou de la trop grande gentillesse de Madame Novak, c'est d'ailleurs déchirant de voir à quel point elle se démène pour des gens qui ne la méritent pas, exacerbe un mal qui prend ses racines partout et fleurit dans cette situation sociale. Finalement, c'est bien la perversité de la société des adultes qui est mise en lumière dans ce film. Celle, à la fois celle explicite de la contrainte et celle, beaucoup plus insidieuse, de la post-vérité, donc dans laquelle baignent les générations nées dans les années 2010. En investissant d'un sens politique l'opposition traditionnelle des générations et en la donnant comme définitive, la fin énigmatique de la salle des profs affirme donc que le juste milieu est intenable et postule une opposition frontale, pour l'instant, irrésoluble.